Bonjour à tous, bon lundi, bienvenue dans l'émission Le Débrief. Il est 16h, on a actuellement 12 degrés à Victoria, le ciel s'est un petit peu dégagé depuis l'heure du midi. C'est Alexis Gagnon qui vous parle, merci de s'intoniser CILS FM 107,9. On a un gros menu info aujourd'hui pour vous dans l'émission. C'est notre collaborateur Denis Lépine qui donne le coup d'envoi avec ses deux bulletins d'actualité. On va se retrouver dans 4 minutes de l'autre côté avec la météo détaillée. On enchaîne ensuite avec les bulletins des Nations Unies et avec les infos provinciales notamment. En interview, je retrouve notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond, avec qui je parle de la construction de la plus haute tour du monde à Dubaï, une tour de 1 km de hauteur. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée vers 16h35. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national, international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Rapport de l'Office national de l'énergie. Eh bien, le document nous apprend que l'hydroélectricité représente 55% de la capacité totale installée au Canada et 58% de sa production d'électricité. De plus, 4 provinces et un territoire prennent plus de 85% de leur énergie en hydroélectricité, soit le Yukon, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Le rapport indique que le secteur de l'électricité produit 11% des émissions de gaz à effet de serre au Canada et que ces émissions ont diminué de 40% entre 2000 et 2014. Le ministère de la Justice du Canada a fait le point sur cette rencontre de deux jours des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique. Le gouvernement a souligné que les discussions ont porté sur des priorités en matière de justice et de sécurité publique, notamment la violence faite aux femmes et aux filles et la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les ministres ont souligné aussi l'importance de la révision du système de justice pénale pour faire face aux délais associés aux instances criminelles. Une délégation du Club Entrepreneur de Chine est en sol canadien jusqu'à dimanche prochain. Il s'agit du 9e pays que le club visite lors de sa tournée annuelle. Le club visitera notamment les villes de Montréal, Ottawa, Toronto et Vancouver. Notons aussi que le premier ministre Trudeau rencontrera la délégation. La délégation a fait savoir dans un communiqué qu'elle s'intéressera principalement à la scène politique du Canada, aux occasions qu'apportent les changements économiques et à l'établissement d'un dialogue, notamment dans les secteurs des biens de consommation et de la finance. Un exercice militaire a lieu cette semaine dans le nord canadien. Le NORAD indique tenir son exercice annuel Vigilant Shield. Une intensification de la présence militaire est donc à prévoir. Plusieurs communautés pourraient être témoins de cette activité militaire et s'attendre notamment à voir des chasseurs CF-18 de l'aviation royale canadienne. Les forces du NORAD reçoivent pour l'occasion le soutien du personnel en poste au détachement de Winnipeg, North Bay et de la station des forces canadiennes Alert au Nunavut. Début aujourd'hui de la conférence mondiale Habitat 3 des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. La conférence a lieu à Quito, en Équateur. Elle rassemble des représentants des pays du monde entier, dont le Canada, pour discuter de questions touchant le développement urbain durable. Le principal but de la conférence est de redynamiser l'engagement mondial en faveur du développement urbain et mettre l'emphase aussi sur la mise en œuvre d'un nouvel agenda urbain. La conférence prend fin jeudi. Le Canada a profité de la réunion de Kigali pour se joindre au reste du monde pour réduire les hydrofluorocarbones, soit des gaz à effet de serre utilisés entre autres dans les systèmes de climatisation. Le Canada a donc adopté une modification au protocole de Montréal de 1987. Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a dit que le Canada et le monde ont franchi une autre étape très importante dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. Semaine de la petite entreprise au Canada, Justin Trudeau a déclaré que les propriétaires travaillent fort pour offrir aux Canadiens des produits et services de qualité tout en créant des emplois. Le premier ministre a tenu à souligner qu'il y a plus de 1 160 000 PME au Canada et qu'elles représentent 99% des entreprises privées au pays et emploient 90% de la population active du secteur privé. Selon des données publiées par l'Association canadienne de l'immeuble, le mois d'août a été synonyme de hausse pour les ventes résidentielles au pays, comparativement à la même période en 2015. Gregory Klump, économiste en chef de l'association, a dit que les acheteurs d'une première maison sont favorables à la vague de maisons qui change de main, ce qui fait d'eux le pivot du marché de l'habitation. Au sport, au baseball majeur, série de championnat dans la Ligue nationale, victoire des Dodgers de Los Angeles 1-0 contre les Cubs de Chicago. Très belle prestation pour le gaucher des Dodgers, Clayton Kershaw. La série est maintenant égale 1-1. Le match numéro 3 aura lieu mardi soir. Dans l'Américaine maintenant, le match numéro 3 de la série de championnat aura lieu ce soir entre Cleveland et Toronto. Rappelons que les Jays tirent de l'arrière 2-0. Au hockey, dans la Ligue nationale, mentionnons notamment cette victoire de Buffalo 6-2 contre Edmonton. Ce soir, entre autres, Ottawa sera à Détroit et Boston à Winnipeg. NFL week-end numéro 6, des gains notamment pour la Nouvelle-Angleterre, Dallas, Seattle, Kansas City et Buffalo. Et ce soir, au match du lundi soir, les Jets de New York seront en Arizona pour affronter les Cardinals.
C'était les bulletins d'information de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9 à Victoria, où que vous soyez, en voiture, au travail ou à la maison. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. Maintenant, on va se pencher sur les prévisions émises par Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Du côté de l'Université de Victoria, UVic, on a 14 degrés actuellement. Dans le port de Victoria, c'est 12 degrés. Et du côté de l'aéroport, non loin de Sydney, on a 15 degrés au mercure. Les nuages demeurent menaçants au cours des prochaines heures. On a une probabilité d'averse de 60% en soirée. Le minimum ce soir et cette nuit pourrait descendre à 8 degrés. Demain, on aura un mélange soleil-nuage-pluie avec une probabilité d'averse de 70%, un maximum de 13 degrés. Donc, dans la journée de demain, 18 octobre. Pour mercredi 19 octobre, encore de la pluie, une probabilité d'averse qui demeure élevée à 60%, un maximum de 13 degrés. Et si on pousse un petit peu plus loin du côté de jeudi 20 octobre, on a 14 degrés au mercure, de la pluie. Et selon les prévisions d'Environnement Canada, la pluie se poursuit jusqu'au week-end prochain. Donc, on n'est pas sorti d'affaire. Le typhon qui s'est épuisé, si vous voulez, en fin de semaine, qui est venu expirer sur nos côtes, a laissé des nuages, il faut croire, puisque le ciel sera majoritairement couvert au cours des prochains jours. On aura du soleil dans la journée de demain, mais ça se couvre ensuite pour les jours subséquents. Alors, voilà qui complète le petit regard sur la météo. Je rappelle qu'il fait actuellement 15 degrés au centre-ville de Victoria. On écoute tout de suite le bulletin des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour cette nouvelle édition du journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre l'ONU qui s'inquiète des conséquences humanitaires de la bataille lancée ce lundi pour reprendre la ville irakienne de Mossoul. L'ouverture à Quito en Équateur de la conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. Nous y reviendrons avec Ban Ki-moon et l'OMS. Et puis aussi en titre la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté et celle consacrée à l'alimentation. Annoncée depuis des mois, l'offensive contre la ville irakienne de Mossoul, contrôlée par Daesh, a donc été lancée ce lundi. L'armée irakienne, appuyée par une coalition internationale, tente de libérer la deuxième ville du pays sur laquelle les combattants extrémistes ont la main mise depuis l'été 2014. Une offensive et ses conséquences sur les 1,5 million d'habitants qui inquiètent l'ONU. Les Nations Unies redoutent en effet que cette bataille déclenche une crise humanitaire sans précédent, susceptible de jeter sur les routes des centaines de milliers de civils aux prémices de l'hiver. Alpha Diallo.
De plus en plus d'inquiétude pour les civils présents à Mossoul, alors que l'offensive pour reprendre cette ville irakienne au groupe de l'État islamique se précise, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires humanitaires se dit extrêmement préoccupé pour les 1,5 million de personnes vivant à Mossoul. Selon Stéphane O'Brien, les civils pourraient être touchés par les opérations militaires, notamment ces familles exposées à un risque extrême d'être prises entre deux feux ou prises pour cible par des snipers. En prévision de cette crise, les agences des Nations Unies se mobilisent déjà, des tentes sont prépositionnées pour 60 000 déplacés et des abris provisoires en construction avec une capacité d'accueil de 250 000 personnes. Des rations alimentaires sont également entreposées. Le bureau de la coordination des affaires humanitaires souligne que dans le pire des cas, la crise humanitaire à Mossoul est partie pour être la plus grande opération humanitaire dans le monde en 2016 avec 1,5 million de civils touchés par les opérations militaires. L'ONU s'attend même à ce que plus de 100 000 Irakiens se réfugient même en Syrie voisine qui n'est pas aussi épargnée par les violences. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
La conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable, Habitat 3, a débuté ce lundi en Équateur. La conférence doit déboucher sur l'adoption d'un agenda urbain par lequel les États s'engageront à assurer la croissance durable des villes et autres zones urbaines. Selon ONU Habitat, si les villes occupent 2% de la superficie terrestre et génèrent 70% du PIB mondial, elles représentent 60% de la consommation énergétique mondiale et provoquent 70% des émissions de gaz à effet de serre et des déchets. À Quito, le secrétaire général a souligné que les villes ont un rôle immense à jouer pour éliminer la pauvreté et bâtir des sociétés plus inclusives. Isabelle Dupuis.
À Quito, Ban Ki-moon a indiqué que plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes ou des établissements humains et qu'environ un quart des citadins vivent dans la promiscuité de bidonvilles ou de logements de fortune dans lesquels l'accès aux services de base est limité. Nombre de ces personnes ne peuvent pas obtenir un travail décent et risquent d'être victimes de crimes, d'évictions forcées ou de se retrouver sans abri. Le secrétaire général s'est aussi inquiété des conséquences dramatiques pour l'environnement de la pollution produite par les villes et par les produits qu'elles consomment. Aussi, pour Ban Ki-moon, afin de vivre dans un monde meilleur, il faut transformer nos villes et nos cités, moyennant une meilleure gouvernance et planification urbaine. Le secrétaire général a appelé à investir davantage dans des logements adéquats et abordables, des infrastructures de qualité et des services de base, mais aussi à assurer la participation des femmes et des filles pour rendre les villes plus sûres et plus productives pour tous.
Une transition toute trouvée avec la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, célébrée ce lundi, placée sous le thème de l'humiliation et l'exclusion à la participation, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. La journée vise à reconnaître le quotidien de plus de 1 milliard de personnes qui vivent dans la pauvreté aujourd'hui. L'ONG ATD Quart Monde a été fortement impliquée dans le choix de cette thématique et les événements tenus au siège de l'ONU qui donnent la parole aux personnes vivant dans la pauvreté. Bruno Tardieu, volontaire permanent d'ATD Quart Monde.
Pour les gens en situation de pauvreté, c'est une évidence que ce qui les empêche de sortir de la misère, c'est le regard qu'on porte sur eux. La raison d'être même de cette journée, c'est de pouvoir rendre honneur aux gens qui vivent la misère, aux gens qui luttent au jour le jour et qui sont toujours considérés, et malheureusement de plus en plus, comme, disons, des losers, des gens qui n'ont pas de volonté, qui ne veulent pas s'en sortir, qui profitent. Et plus ce regard se durcit, plus la possibilité de sortir de la misère pour des enfants, des jeunes, des adultes s'éloigne. La plus grande des injustices, c'est de considérer les gens en situation de pauvreté comme coupables de leur situation. Et c'est ça que retourne un peu cette journée. C'est un des rares espaces-temps dans le monde international et dans le monde tout court où les personnes en situation de pauvreté parlent de leur combat, parlent de leur résistance et parlent en termes de droits humains et non pas en termes de manque.
Enfin, la FAO vient de publier son dernier rapport sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2016. La FAO appelle à une action radicale en vue de prévenir les risques d'une future insécurité alimentaire dans le monde. Le rapport indique que le changement climatique devrait exposer les populations vulnérables des zones urbaines et rurales à des prix plus élevés et plus volatiles des denrées alimentaires. Les précisions d'Alexandre Mébec, il est conseiller principal à la FAO pour les questions liées à l'agriculture et à l'environnement.
Le premier impact du changement climatique, c'est que les conditions dans lesquelles est pratiquée l'agriculture, les activités agricoles au sens large, incluant la pêche et la foresterie, changent. Dans ces secteurs qui sont très liés aux conditions climatiques, tout changement météorologique a des conséquences sur le système, à la fois des conséquences directes, si la pluie arrive trop tard, s'il y a une vague de chaleur la nuit, à un moment critique pour la floraison d'une culture, on peut perdre une récolte, mais aussi des effets indirects. Sur les maladies animales, sur les plantes adventices et sur les parasites des cultures. Tous ces risques additionnels sont à la fois des risques en termes de production de nourriture et puis aussi des risques en termes de moyens d'existence pour les populations qui en dépendent. Et il faut rappeler que la majorité de la population qui souffre de la faim et qui souffre de la pauvreté dans le monde dépendent des secteurs agricoles. Ce sont donc les populations déjà les plus vulnérables qui sont les plus vulnérables au changement climatique.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'ouverture à Quito en Équateur ce lundi d'Habitat 3, la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable. La Radio des Nations Unies a dépêché sur place Rocío Franco, qui s'est entretenue avec Nathalie Rebel, experte de l'OMS sur les déterminants sociaux de la santé, après sa participation à un groupe de discussion pour promouvoir l'espace public pour des villes plus inclusives, accessibles et vivables.
Bonjour, je m'appelle Nathalie Rebel, je suis chargée de mission à l'OMS à Genève. Je travaille dans le département pour la santé publique et les déterminants environnementaux et sociaux de la santé. Et je viens de participer à un groupe de travail sur les espaces publics.
Pouvez-vous identifier les problèmes que vous avez observés dans les villes, des problèmes qui rendent la vie difficile et nuisent à la santé?
Quand on parle de santé urbaine, évidemment, il y a beaucoup de facteurs de tenir en compte. Ce serait un peu long maintenant de faire une exposition globale de la santé urbaine, mais si on met en relation justement l'événement qu'on vient d'avoir, on a parlé beaucoup des espaces publics et de l'effet que ça a sur la santé, et justement le manque d'accès à des espaces verts, le manque d'accès à des zones piétonnes ou des rues pour les vélos ont un impact sur l'activité physique et augmentent l'utilisation des transports privés, du coup avec un impact sur la pollution de l'air par exemple, et le manque d'activité physique. Du coup, ça c'est un exemple qu'on a traité. En même temps, le manque d'espaces publics sécurisés peut aussi avoir un effet sur la cohésion sociale, c'est-à-dire sur la façon dont les personnes interagissent, et du coup ça peut aussi avoir un impact important sur la santé mentale des personnes, des habitants, et aussi sur leur bien-être en général. Ce sont seulement certains aspects. Bien sûr, après, il y a un thème qu'on connaît beaucoup et qui est un problème dominant des grandes villes aujourd'hui, c'est la question de la pollution de l'air, qui affecte quand même beaucoup de villes de notre planète et qui est bien sûr dû à beaucoup de choses et qui peut être traité si on veut utiliser une terminologie presque médicale par changer un certain nombre de politiques de transport, de politiques d'énergie, de politiques d'agriculture, etc.
And what are the measures? Quelles sont les mesures que les villes peuvent prendre pour résoudre ces problèmes?
Mais comme je vous disais, effectivement, ce sont des sujets, on parle d'un point de vue de santé publique, mais au fond, ce n'est pas le secteur de la santé qui peut vraiment agir dans ce cas-là, ce sont plutôt les autres secteurs, comme je disais, le transport, l'énergie, l'habitat, qui ont vraiment des politiques à mettre en place pour changer. Et du coup, si on prend l'exemple du transport, si on a des véhicules, si on a d'abord déjà dans une ville beaucoup plus de transport public, qu'ils utilisent des formes d'énergie moins polluantes, déjà ça va avoir un effet important sur la santé des habitants. Là même, si on part dans les énergies de l'habitat, si on fait un effort au niveau de l'habitat de réduire les émissions, la consommation énergétique et le type d'énergie qu'on utilise pour chauffer par exemple, et si on change la façon de construire nos maisons en tenant compte d'une isolation meilleure, voilà, on peut avoir un impact sur la qualité des habitants. Du coup, ce sont souvent des secteurs au-delà de la santé qui peuvent aider à améliorer la santé dans les villes.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CLSFM, 107,9. On passe aux nouvelles provinciales à présent. Première nouvelle, on va aller en musique quelques instants. Je vous propose d'écouter David Fleury avec une pièce qui s'intitule « Rien d'un bon à rien » et je vous reviens tout de suite après la pause.
Prends-moi comme tu veux, en frère d'adoption, en amant par les cheveux, en coup de vent ou en saison. Mais prends-moi pas pour un con. Prends-moi comme tu veux, entier aux collations. À défaut d'être heureux, saute à l'eau ou prends le pont. Mais prends-moi pas pour un jeu. Ouh, ouh, je n'ai rien de bon à rien. Prends-moi comme tu veux, en source d'inspiration. Joyeux, malheureux, en exemple ou en mauvais garçon. Mais prends-moi pas pour un con. Prends-moi comme tu veux, ami ou comme un dieu. Par le bras ou par la main, comme des vrais ou faux amoureux. Mais prends-moi pas pour ton chien. Fait que prends-moi pas pour un pantin. Prends-moi comme je veux, de tête aux pieds ou à l'envers. J'ai fait de la place pour nous deux. T'embarques ou tu changes d'air. Prends-moi pas pour un bon à rien.
David Fleury dans Le Débrief, il est 16h21, Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Vous êtes dans Le Débrief. On va passer aux nouvelles provinciales actuellement. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 18 octobre, bienvenue dans l'émission. Donc, nouvelles provinciales, on parle tout de suite de ce remorqueur qui a fait naufrage sur le littoral nord de la Colombie-Britannique à proximité de Bella Bella. Je vous en avais glissé un mot la semaine dernière. Les opérations de récupération du diesel se poursuivent avec un succès mitigé, vous allez voir. Je vous lis d'abord quelques lignes d'une dépêche parue sur le portail de Radio-Canada. Des équipes espèrent pouvoir commencer à pomper aujourd'hui, lundi, le carburant qui se trouve toujours dans le remorqueur qui a coulé la semaine dernière près de Bella Bella, donc un remorqueur de pétroliers. Bella Bella, vous le savez, est situé dans le nord de la Colombie-Britannique. Le remorqueur, Nathan E. Stewart, c'est le nom de ce bateau, sera ensuite retiré de l'eau à l'aide d'une grue est placé sur une barge pour être transporté. Selon les autorités, le navire est en position stable. Pour rappel, au moment de l'accident, il tirait une barge vide servant à transporter des produits pétrolier. Près de 200 000 litres de diesel se sont tout de même écoulés dans les eaux de la région. Des travaux de nettoyage ont eu lieu au cours des derniers jours. Une élue de la Première Nation Etchuk, rapporte Radio-Canada, une élue qui s'appelle Jess Housty, s'inquiète des effets sur la faune de la région. Je pense qu'il est facile de comprendre, a-t-elle-t-il, qu'il s'agit d'un enjeu environnemental. Pour nous, c'est aussi un enjeu économique pour les pêcheurs de palourdes qui voient leur gagne-pain compromis par cet accident. C'est un accident qui a été signalé dans les médias locaux, mais aussi par d'autres titres de la presse anglophone. Il y a par exemple un papier publié sur le portail forthecoast.ca, qui est un portail environnementaliste d'infos à caractère environnemental. On souligne dans l'article paru sur ce site la lenteur de pêcher au sang Pêche et Océan Canada, le temps de réponse a été insatisfaisant, inadéquat, rapporte ce média. Plusieurs membres des Premières Nations locales et leurs leaders se sont exprimés et ont déploré finalement la lenteur de réponse, de réaction qui a permis justement ce déversement d'avoir lieu à si grande échelle. On rappelle donc qu'il y a 200 000 litres d'écoulés dans les eaux de Bella Bella. C'est un avertissement vraiment pour tous ceux qui croient encore possible de faire circuler des pétroliers dans ce labyrinthe d'îles de cette région du nord littoral de la Colombie-Britannique où certaines entreprises énergétiques veulent faire aboutir des pipelines. Il y en a un qui a reçu son accord, son autorisation récemment, le Pacific Northwest, le pipeline Pacific Northwest qui est piloté par Petronas. C'est un pipeline de gaz naturel liquéfié qui va augmenter le trafic maritime dans cette portion de la province. Donc, ce naufrage de remorqueurs est vraiment un avertissement. Les Premières Nations sont déçues. On se demande où est passée la promesse du gouvernement Trudeau quant aux relations nation à nation qui avaient été promises lors de la campagne électorale de 2015. L'augmentation du trafic des pétroliers qui est prévue pour les prochaines années ne laisse entrevoir rien de bon. Alors, c'est un dossier à suivre. Je tiens également à vous mentionner cette fuite d'oléoduc survenue en Alberta au cours des derniers jours. 3 hectares ont été recouverts d'une émulsion de pétrole. Trilogy Energy, c'est la compagnie qui est en cause, affirme que la fuite d'oléoduc qu'elle a découverte la semaine dernière dans le nord de l'Alberta a recouvert d'une émulsion de pétrole une région grande d'environ 3 hectares. C'est environ la taille de 4 terrains de football. Dans une mise à jour affichée sur son site web il y a quelques jours, l'entreprise productrice de pétrole et de gaz basée à Calgary affirme qu'elle ne connaît toujours pas le volume de la fuite qui s'est produite dans des marais à environ 15 km de Fox Creek. Différents médias anglophones rapportent aujourd'hui que l'organisme de réglementation albertain de l'énergie, le Alberta Energy Regulator, a ordonné à Trilogy Energy de récupérer le pétrole qui a fui, d'effectuer un nettoyage complet et de rédiger un rapport sur l'accident dans les meilleurs délais. Donc voilà le plus récent déversement en date. Il ne se passe pas un mois sans qu'on ait à déplorer un nouveau déversement de pipeline dans l'ouest et dans les prairies. C'est un dossier qu'on suit de près ici au débrief. On se tourne maintenant vers la région métropolitaine de Vancouver. On vous a parlé ce mois-ci des commissions scolaires, de la commission scolaire de Vancouver, la VSB, qui traverse une période difficile, beaucoup de problèmes de congés maladie et de conflits au sein de cette commission scolaire. Le ministre de l'Éducation, Mike Bernier, a déclaré aujourd'hui lundi qu'il n'avait pas d'autres options que de démettre de leur fonction des commissaires de cette commission scolaire. Donc, il a démis 9 commissaires élus à la commission scolaire de Vancouver. C'est une nouvelle qui apparaît un peu partout dans la toile aujourd'hui, notamment sur le portail de Radio-Canada. Toujours du côté de Vancouver, on apprend que la ville de Vancouver poursuit un propriétaire qui loue sur le portail Airbnb. Alors, évidemment, c'est une nouvelle qui s'inscrit dans la crise immobilière actuelle. C'est un symptôme de la crise immobilière actuelle où l'on voit les prix des immeubles et des maisons augmenter, où l'on voit le coût des loyers également augmenter en flèche et l'accès au logement devenir de plus en plus difficile pour les personnes à revenus modestes, sans parler des sans-abri, bien sûr. Donc, la ville de Vancouver est allée encore plus loin dans sa bataille contre Airbnb. Airbnb, rapporte aujourd'hui Radio-Canada, en portant le dossier devant la Cour suprême de Colombie-Britannique. La ville de Vancouver souhaite que l'agence propriétaire d'une maison de ville du quartier Mount Pleasant à Vancouver cesse immédiatement ses activités de location de courte durée. La poursuite judiciaire vise la compagnie East-West Investments, une agence qui est actuellement propriétaire de l'habitation en question. La ville a justifié sa décision de poursuivre l'agence par son règlement de zonage. En effet, la réglementation municipale stipule qu'il est interdit de louer une maison ou un appartement pour une période de moins d'un mois, sauf si la propriété fait partie d'un hôtel ou d'une chambre d'hôte. Or, après enquête, la municipalité de Vancouver croit que cette propriété allait à l'encontre des dispositions du règlement. Donc, cette pénalité, cette poursuite pourra servir d'exemple et peut-être dissuader d'autres propriétaires qui transforment leur immeuble en hôtel Airbnb. Donc, c'est à suivre. On s'arrête quelques instants pour un intermède musical. Au retour, on attaque les nouvelles du jour. À tout de suite. Grosse nouvelle aujourd'hui concernant notre système de justice canadien. Justin Trudeau a nommé le juge Malcolm Rowe à la Cour suprême du Canada. Le premier ministre Justin Trudeau annonce la nomination de Malcolm Rowe, juge à la Cour d'appel de Terre-Neuve-Labrador, comme juge à la Cour suprême du Canada. Il s'agit de la première nomination du gouvernement fédéral depuis que celui-ci a annoncé un nouveau processus de sélection des juges au plus haut tribunal du pays. Le juge Rowe, 63 ans, a été appelé à traiter au cours de sa carrière des questions touchant le droit constitutionnel, les relations internationales et la délimitation de frontières maritimes, entre autres. Le premier ministre Trudeau s'était engagé en mai dernier à nommer uniquement des juges bilingues à la Cour suprême à partir de maintenant. Au bureau du premier ministre, on affirme que le juge Rowe a effectivement démontré qu'il est bilingue à l'oral et à l'écrit lors de l'évaluation des aptitudes des candidats dans leur langue seconde. Dans le questionnaire que le juge a rempli pour soumettre sa candidature, il a précisé qu'il peut lire ou comprendre des documents de la Cour en anglais et en français, discuter d'affaires juridiques avec ses collègues et comprendre une argumentation orale à la Cour dans les deux langues officielles sans formation supplémentaire. Donc, comprendre une argumentation orale à la Cour, c'est quand même assez ardu. Il faut vraiment être bilingue et pour de vrai pour y arriver. On sait que de grands avocats francophones se sont plaints dans le passé d'avoir pu être compris lors de leur plaidoyer à la Cour suprême. Et il était clair pour eux que le plaidoyer en français leur avait nuit, finalement, puisque les juges n'avaient pas saisi la subtilité de leurs propos. Donc, espérons que dans le cas du juge Rowe, ce soit véritablement un bilinguisme complet et accompli. Qu'il puisse rendre les meilleurs jugements possibles dans les circonstances. Alors le juge dans sa bio affirme que c'est en faisant la promotion des intérêts de l'Atlantique, la région des maritimes, dans le cadre de causes touchant les pêcheries entre 1986 et 1995, qu'il a pu perfectionner son français. Il œuvrait régulièrement à ce moment-là dans un milieu milieu francophone, a-t-il dit. Le gouvernement Trudeau, quant à lui, avait fait l'objet de fortes pressions, on s'en souviendra, pour que soit nommé à la Cour suprême un juge originaire des provinces de l'Atlantique, donc pour remplacer le juge Thomas Cromwell, qui était originaire de la Nouvelle-Écosse et qui a pris sa retraite en septembre, donc le mois dernier. Voilà pour cette nouvelle du jour. Je mentionne une petite nouvelle sur la scène internationale concernant le géant de l'agroalimentaire Monsanto. Cette transnationale qui fait régulièrement la manchette pour ses pratiques un peu sulfureuses et pour ses produits manipulés génétiquement fait l'objet d'un procès factice, un procès qui se déroule en marge du système judiciaire établi, si vous voulez. C'est rapporté par le journal Le Monde cette semaine. Des juges accusent Monsanto d'écocide. Procès factice se tient durant 3 jours à La Haye. La Haye, c'est aux Pays-Bas, où se trouvent certains tribunaux internationaux. L'objectif de cette initiative est de savoir si Monsanto est coupable de crimes environnementaux. Des militants internationaux ont lancé vendredi à La Haye l'Assemblée des peuples, tribunal citoyen informel accusant le géant américain Monsanto de violer les droits de l'homme et de commettre le crime d'écocide. En représentant une importante menace pour l'environnement, Monsanto, qui produit des semences génétiquement modifiées ainsi que des pesticides controversés, a déjà rejeté cette assemblée de la haie organisée par des centaines de groupes citoyens, la qualifiant de parodie de tribunal sans valeur légale. Ce sont 5 juges véritables qui ont été recrutés par les auteurs de cette initiative, donc 5 juges professionnels internationaux qui vont entendre au cours de ces 3 jours 30 témoins, dont des scientifiques, des agriculteurs, des apiculteurs. Et le tribunal rendra ensuite, au terme de ces 3 jours de procès, un avis consultatif légal destiné à alimenter les lois existantes, notamment via la création d'une jurisprudence au sein du droit international. Donc c'est très ambitieux, c'est très créatif, imaginatif aussi. Donc on peut saluer cette initiative citoyenne. On s'arrête quelques instants, on va aller à l'intermède musical. Au retour, je rejoins notre chroniqueur régulier Jean-Christophe Leblond. Avec Jean-Christophe aujourd'hui, on parle d'architecture. Jean-Christophe est architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. Donc, après avoir parlé de la tour en bois la plus haute du monde, une tour en bois qui est construite ici en Colombie-Britannique sur le campus de l'Université de Colombie-Britannique, UBC. Et elle est d'ailleurs presque achevée, cette tour en bois qui va servir de résidence aux étudiants. Donc, après avoir parlé de cette tour il y a une quinzaine de jours avec Jean-Christophe, j'aborde à nouveau le sujet des tours et cette fois on parle des tours mégalomanes qui poussent comme des champignons du côté de Dubaï. On a appris récemment que Dubaï allait construire une nouvelle tour, cette fois qui va fracasser les records de hauteur. C'est une tour qui va faire plus de 1 km de hauteur. Donc j'en parle dans quelques instants avec Jean-Christophe, restez à l'écoute. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre rendez-vous info du lundi au jeudi. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Leblond. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour Alexis.
Alors Jean-Christophe, notre architecte spécialiste des questions d'aménagement du territoire, une chronique régulière à l'antenne du Débrief. On parle aujourd'hui de la tour la plus haute du monde. On avait parlé récemment de la tour en bois la plus haute du monde, qui est en construction actuellement sur le campus de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Donc, on continue dans cette même veine-là. Et cette fois-ci, on parle de la tour la plus haute du monde, elle aussi en préparation. C'est du côté de Dubaï, n'est-ce pas, Jean-Christophe?
Oui, en effet, où se trouve déjà la tour qui est la plus haute du monde en ce moment. Mais donc, ils en construiraient une qui serait encore plus haute. Dubaï est un peu le Manhattan du 21e siècle, en quelque part, parce que si on se souvient bien, au début du 20e siècle, il y avait une course effrénée, et puis à chaque nouveau gratte-ciel qui se construisait à New York, c'était le plus haut du monde, mais seulement pendant quelques mois, jusqu'à ce que le suivant soit construit.
Oui, voilà. Et cette tour de Dubaï, qui est actuellement la plus haute du monde, est assez célèbre du fait de sa hauteur, justement. On a pu la voir dans un des films de la série des Mission Impossible ces dernières années. Il y a eu des vidéos de musique aussi qui ont été tournées. Bref, elle apparaît souvent. Si tu veux, une place dans dans l'imagerie populaire mondiale, et elle va être supplantée finalement. En quoi consiste le projet exactement?
J'ai pas énormément de détails, mais il semble que ce serait une tour de 950 à 1100 mètres de hauteur au coût de 1 milliard de dollars, coût qui sera probablement dépassé comme dans la plupart des projets. Et qui serait dessiné par Santiago Calatrava, une des star-architectes, c'est-à-dire star-architecte du monde actuel.
D'accord, donc près de 1 km de hauteur, carrément, c'est tout un dénivelé, ça. Ça peut même toucher les nuages, c'est complètement mégalomane. Est-ce qu'on peut parler un peu de ce cabinet, de cet star-architecte Santiago?
Calatrava, c'est un homme d'origine espagnole et suisse qui est ingénieur et architecte là, et qui a produit beaucoup de projets récents très en vue, là, dont un projet là qui est sur le site de Ground Zero. En tout cas, il y a plusieurs, aussi bien des ponts que des bâtiments là, qui ont été dessinés par lui. D'ailleurs, je pense que au Canada, à Toronto, si je me souviens bien, au centre Eaton, je pense qu'il a participé là, à la conception de la structure.
Donc à Ground Zero à New York, Manhattan, ouais. Est-ce qu'il avait participé à la conception de la Freedom Tower qui a remplacé?
Non. Je me souviens plus exactement quel était son rôle là. Si je me souviens, c'est peut-être même une sortie de station de métro. Je me souviens plus exactement.
Ah oui, d'accord.
Ça c'était un autre architecte.
Alors quel est l'intérêt, Jean-Christophe, de construire des tours toujours plus hautes? C'est assez puéril, non?
En quelque part, là, on peut dire que c'est vraiment il y a un élément irrationnel dans le désir de construire des tours qui affecte pas mal toutes les régions du monde. Les gens se comparent, les politiciens comparent souvent leur ville en fonction du nombre ou de la hauteur de tours qu'on y trouve.
Oui.
C'est toujours un élément de comparaison et d'envie. Par exemple, les politiciens à Montréal qui trouvent qu'il faut qu'on construise beaucoup plus de tours et des tours plus hautes parce que Toronto a beaucoup de tours et de tours plus hautes. Dans les faits, il y a très peu de raisons concrètes de construire des tours, c'est-à-dire des raisons qui relèvent de besoins concrets.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle constamment de des bénéfices de la densité là, pour
voilà.
Créer des environnements urbains conviviaux et puis où il y a une certaine proximité de services. Mais il y a une densité optimale qui ne requiert pas la construction de tours parce qu'en fait, sauf dans certains contextes, il y a toujours une question de contexte. Je veux dire, par exemple, dans des environnements comme Hong Kong ou même Vancouver, où il y a une quantité limitée de terres à développer, on comprend que il y a une certaine logique à construire des tours.
Verticalement.
Mais en fait, on peut obtenir des densités urbaines très, très, très importantes en construisant des immeubles de 2, 3, 4, 6 étages, qui sont des hauteurs qui ne requièrent pas que l'on prenne nécessairement un ascenseur pour se rendre à son appartement et qui sont en fait plus efficaces du point de vue énergétique que des bâtiments plus élevés. On se fait souvent dire que les tours sont nécessaires parce qu'elles sont plus efficaces, parce que la densité fait que les infrastructures urbaines sont moins répandues, mais c'est pas la seule variable en fait. Parce que pour une tour, il faut, par exemple, que la circulation à l'intérieur de la tour soit mécanisée, que la ventilation soit mécanisée, que tous les systèmes qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la tour consomment beaucoup plus d'énergie, en fait. Et la conception même d'une tour dans un environnement qui requiert que l'air intérieur soit maintenu à une température vivable, soit climatisé, soit par le refroidissement ou pour réchauffer l'air. Mais en fait, les tours sont beaucoup moins efficaces que des constructions de plus faible hauteur.
D'accord. Donc, ça tient vraiment d'un réflexe psychologique ou d'une impulsion psychologique qui est égotique finalement. Ça relève de l'ego, quoi. C'est celui qui a l'ego.
Oui, c'est ça, je dirais. Ben, en effet, d'une part, d'un certain besoin de se montrer. Et d'autre part, je me demande des fois si la raison pour laquelle la construction de tours est mise de l'avant comme étant quelque chose de bien en soi, c'est aussi parce qu'en fait, les gens qui tirent parti de la construction de tours, c'est surtout les spéculateurs fonciers. Peut-être qu'une des raisons qui motive les maires de nos villes à faire la promotion de tours, c'est aussi cet élément-là. Il y a quand même des gens qui peuvent en tirer parti, mais en fait, pour la moyenne de la population, c'est pas la façon la plus intéressante de construire ou de développer un territoire.
D'accord. Et autrement, je sais pas si on t'a déjà demandé des bâtiments, de concevoir des bâtiments qui sont très volumineux, mais est-ce que toi tu accepterais par exemple de dessiner une tour si on t'en commandait une? Est-ce que ça poserait...
Ça dépend toujours du contexte. Je veux dire, c'est sûr que n'importe quel gros projet donne une stabilité financière qui est rarement atteignable pour des gens qui travaillent à leur compte. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y aurait un attrait, mais je pense que ça dépendrait du projet. De façon générale, il y a quelque chose de personnel là-dedans aussi, mais je trouve que beaucoup des projets de tours, même ceux plus qui sont qu'on prétend être plus créatifs, a priori me semble un peu... Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait convaincant.
Oui.
Au niveau esthétique. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une tour, c'est vrai que ça peut être impressionnant et beau de loin quand tu vois la silhouette, le profil d'une ville à l'horizon.
Oui.
Mais le fait est que des tours et un quartier de tours, encore une fois, ça dépend du contexte, mais surtout dans des climats tempérés comme le nôtre, au pied des tours, la vie n'est pas super intéressante. Voilà. D'abord, évidemment, parce que on est dans l'ombre constamment, parce qu'il y a des vents assez importants qui sont générés par la présence de tours, qui créent des couloirs qui accélèrent la vitesse du vent. Et de façon générale, les quartiers qui se trouvent au pied des tours ne sont pas les plus vivants. Dans aucune ville, que ce soit New York, Boston, etc., et puis souvent le problème, c'est que la façon dont les tours sont conçues, en fait, ce qui fait qu'il y a de la vie sur une rue, c'est aussi qu'il peut y avoir de l'interaction entre l'intérieur des bâtiments et l'extérieur. Donc on prend des quartiers nord-américains, ouvriers, typiques du début du 20e siècle, et puis c'est des bâtiments de 3-4 étages, avec des balcons, des escaliers... quelqu'un qui vit dans un appartement peut facilement descendre au niveau de la rue. Il peut y avoir une interaction entre la rue et les appartements et les commerces qui l'abordent. Ce qui n'est pas le cas dans la façon dont on conçoit et on construit des tours. Entre autres parce que on a beau densifier quand on construit une tour, souvent les tours sont équipées de, par exemple, de stationnement souterrain. Et donc, c'est pas parce qu'on a construit une tour que les gens vont moins utiliser leur automobile ou qu'on va créer la convivialité nécessaire au niveau de la rue pour promouvoir un mode de vie qui requiert moins d'énergie.
D'accord. Mais la verticalité demeure pertinente lorsqu'elle permet d'empêcher, par exemple, la construction d'immenses développements immobiliers sur des lotissements de maisons unifamiliales. Ça demeure une possibilité pour préserver de l'habitat et justement ne pas créer des espèces de taches d'huile formées de maisons unifamiliales à perte de vue, n'est-ce pas?
Ben c'est un élément intéressant que tu amènes, et en fait nos politiciens justifient souvent le fait de démolir des quartiers ouvriers d'une centaine d'années qui ont déjà une très forte densité pour y construire des tours. Ils disent ben c'est nécessaire pour éviter l'étalement urbain. Mmh. Or encore une fois, dans les faits, ça c'est un espèce de lieu commun qui en fait il faut remettre en question, parce que ce n'est pas vrai. Le problème, c'est moins que les quartiers centraux déjà denses des villes ne soient pas suffisamment denses. Le problème, c'est que les nouveaux quartiers qu'on construit en périphérie sont très, très, très peu denses. Alors, si oui. Je prends l'exemple de Montréal, un quartier qui est construit entièrement à deux ou trois étages, comme le plateau Mont-Royal, a une densité de 11 000 habitants par kilomètre carré, alors que les banlieues ont souvent une densité de moins de 3 000 habitants par mètre carré. Donc, avant de démolir des quartiers déjà extrêmement denses pour supposément les densifier plus, surtout que c'est des quartiers qui sont fonctionnels et qui consomment très peu d'énergie, entre autres parce qu'ils favorisent un mode de vie qui n'est pas dépendant de l'automobile, peut-être qu'il faudrait commencer à densifier les périphéries qui ont déjà été construites.
Oui, voilà. Et du côté de Victoria, ici, il y a des constructions qui se font en périphérie de la ville. Il y a des nouveaux quartiers qui champignonnent, si tu veux. Et ce sont des maisons unifamiliales qui s'étendent sur des kilomètres carrés, comme ça, du jour au lendemain, là où auparavant il y avait une forêt ou des champs. Et justement, dans ces cas-là, ne vaudrait-il pas mieux de construire des tours dans l'absolu, même si, évidemment, tout le monde veut une maison unifamiliale et ne se satisfait pas forcément de vivre dans une tour? Mais est-ce que c'est une réflexion qu'on devrait pousser?
Ben, encore une fois, il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'entre la tour de 50 étages et la maison unifamiliale de 4000 pieds carrés, il y a un entre-deux. Il y a l'appartement dans un logement de 3 étages qui a accès à une cour arrière, qui a accès à un parc pas trop loin, qui permet une certaine convivialité, qui permet une densité qui est souvent de 4 à 5 fois plus élevée que la densité d'un quartier de maison unifamiliale typique.
Oui.
Imaginons que la priorité devenait de recycler les quartiers de maisons unifamiliales qui ont été construits depuis les années 50 en Amérique du Nord. Et là, on parle déjà d'une superficie de milliers et de milliers d'hectares que si seulement on ramenait leur densité à la moitié de ce qu'est la densité d'un quartier comme le plateau Mont-Royal à Montréal, donc un quartier ouvrier du début du 20e siècle, on pourrait déjà doubler la population de la ville nord-américaine moyenne sans même développer 1 mètre carré de territoire vierge.
Alors, c'est possible de faire ça pour des banlieues qui se sont développées à la fin des années 50 ou au début des années 60, selon toi?
Ben, il faudrait qu'on s'y mette. Je
suis certain comment fait-on?
En usant de notre créativité, oui, et de notre ingéniosité, on pourrait trouver des façons très intéressantes de rendre ces quartiers-là plus fonctionnels point de vue social, du point de vue communautaire, du point de vue énergétique.
Oui, ben ça peut donner lieu à des débats assez relevés, puisque on s'attaque quelque part à la sacro-sainte propriété. Ces maisons-là existent déjà, elles sont occupées par des familles. Est-ce que il faudrait construire de nouvelles maisons dans les interstices ou les espaces libres, raser des parcs pour créer de la densité? Comment fait-on avec ces anciennes banlieues pour les revitaliser?
C'est des excellentes questions que tu poses, auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été énormément travaillé encore. Mmh. À l'Université Laval, il y a un groupe de recherche en urbanisme qui s'est penché sur la question, parce qu'en fait, même du point de vue de la démographie, Il y a quelque chose qui joue à l'encontre de ces banlieues dortoirs qui ont été construites depuis maintenant plus de 50 ans.
Oui.
Et toutes celles qui ont été construites depuis, c'est que souvent, ces banlieues-là, les gens qui les ont achetées sont rendus des personnes âgées qui vivent souvent seules maintenant dans une maison où, à une époque, il y avait une famille.
Oui.
Et donc, dans ce sens-là, le moment est probablement propice à songer au recyclage de ces quartiers-là qui connaissent un certain problème à ce niveau-là parce qu'ils sont plus adaptés aux populations qui les habitent.
Wow, il faudrait vraiment une vision d'ensemble très bien articulée et très fouillée, documentée. Mais c'est sûrement pertinent, de réfléchir à tout cela. Je ne sais pas d'où pourrait provenir la volonté politique. Actuellement, on n'a pas les gouvernements qui sont très.
C'est une bonne question parce que justement, les intérêts financiers sont plus.
Oui.
Et c'est là que ça revient à la question de savoir si la tour est vraiment un antidote à la banlieue qui s'étale.
Oui.
C'est qu'en fait, les intérêts financiers sont plus du côté à la fois de la construction de tours et à la fois du développement de nouveaux terrains.
Et oui.
Donc, c'est ce qui est le plus facile du point de vue politique.
Raser
les anciens quartiers déjà denses des villes pour construire des tours, ce qui n'empêche en rien l'étalement urbain parce que les populations qui sont intéressées par un condo au 25e étage d'une tour dans un centre-ville, c'est pas la même population qui est intéressée par une maison avec une cour arrière.
Oui, voilà. Entre parenthèses, juste pour citer une récente expérience personnelle ici dans les environs de Victoria, entre Colwood et Mauchoisin, en périphérie de Victoria, on a une espèce de petite ville toute neuve qui vient de surgir du sol avec les feux de circulation, les passages piétons, les trottoirs, il y a même une école qui a été bâti pour accueillir les enfants de cette ville. Et pour le moment, la ville n'a pas encore d'habitants. Les maisons sont à peine complétées. Et c'est assez curieux de traverser cette ville qui n'est pas encore occupée. C'est comme une ville fantôme. Et elle occupe énormément d'espace, cette ville. Elle a été gagnée sur la forêt et les champs. Et ça fait ressortir toutes les questions qu'on a abordées. Et elle existe partout en Amérique du Nord, cette ville. Chaque année, de nouveaux développements sont créés, de nouveaux champs sont transformés. Et voilà, donc verticalité, horizontalité, communauté. Espérons que nos hommes et nos femmes politiques réfléchiront à ces questions parce que l'étalement urbain c'est une question à laquelle justement il faut réfléchir.
Oui, absolument. Et je pense que la meilleure réponse pour contrer l'étalement urbain, c'est de miser sur ça peut sembler un peu facile, mais en fait ça l'est pas du tout, sur la convivialité et la proximité. C'est ça les objectifs.
Oui.
Pour permettre un mode de vie qui est moins énergivore, qui dépend moins de l'automobile et qui est moins anonyme aussi, ce qui a d'ailleurs des conséquences au niveau de la santé mentale des gens. Il y a une étude qui avait été faite à la fin des années 60 en Grande-Bretagne, qui avait été publiée dans le British Journal of Medical Science.
Oui.
Et qui en venait à la conclusion que lorsqu'on vivait à plus de 4 étages du niveau de la rue, les problèmes de santé mentale augmentaient, parce que surtout dans le cas des familles, parce que les gens sortaient moins à l'extérieur. À partir du moment où on a besoin d'utiliser un mode de transport mécanisé pour se rendre à l'extérieur, on a tendance à plus rester chez soi.
Oui, on descend de notre appartement surélevé au garage souterrain, on sort avec la voiture et il n'y a aucune interaction avec l'environnement immédiat, quelque part.
Oui, et c'est simplement que quand un parent sait, par exemple, qu'il peut regarder son enfant jouer dans la ruelle avec les autres enfants du voisinage, et l'appeler de la maison, Il sera plus prêt à laisser sortir son enfant seul que si tu habites au 20e étage et qu'il faut prendre l'ascenseur pour accompagner l'enfant à l'extérieur, par exemple.
Fascinant, Jean-Christophe. Le temps ne nous laisse plus de place. Le sablier est écoulé. Merci beaucoup pour cette réflexion qu'on a démarrée avec la tour la plus haute du monde. Ça nous a donné la possibilité d'ouvrir sur la façon de construire nos villes, finalement, et de questionner l'étalement urbain.
Merci à toi.
Merci beaucoup. À bientôt.
Bonne journée.
Jean-Christophe est architecte et spécialiste des questions d'aménagement du territoire. Merci Jean-Christophe. Ainsi s'achève cette édition du Débrief. Merci de nous avoir suivis à travers cette heure d'information à l'antenne de CILS FM 107,9 en direct ou en rediffusion. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Excellente soirée à tous.